Chers auditeurs, il est 16h30 sur Transistor. Il est maintenant temps de parler cinéma pour cette dernière demi-heure de l'après-midi. On retrouve Rémi et Pauline pour des toiles plein les yeux, où ils vont vous parler aujourd'hui du film Knight of Cups. Je leur laisse la parole.
Cercavo la grande bellezza, ma non l'ho trovata.
That's funny. That plains dust and crops where there ain't no crops.
I want to bring salvation. Father, take me back. Make a feast. Welcome me home. I want to be your son. I want to pay the price.
Bienvenue dans votre émission de cinéma sur Transistor, des toiles plein les yeux. Pour ce numéro en direct, les yeux qui accompagnent les miens sont ceux de Pauline. Quant à la toile, elle accueille aujourd'hui le dernier opus du légendaire Terrence Malick, Knight of Cups. Comment résumer ce film ? Rick a la trentaine, il est scénariste à Hollywood, il est au sommet de la réussite professionnelle et meuble son quotidien avec une vie de luxe et de débauche dans laquelle il ne se reconnaît pas. Alors que dans sa famille, tous perdent pied suite au suicide de son frère et que sa vie de couple se délite complètement, Rick n'a plus envie d'honneur et de paillettes et se demande qui il est dans ce monde sur lequel il promène son regard morne, en silence, ne parlant plus qu'à lui-même en voix off. Cette vacuité, il s'évertue laborieusement à la remplir. Il tente de se retrouver dans sa famille, dans l'amour de conquête glané presque au hasard sur son chemin, ou dans cette espèce de spiritualité panthéiste caractéristique du cinéma de Malick. C'est cette errance inachevée que donne à voir le film, scandé par le pas lent et les pensées du personnage, interprété par Christian Bale. Mais je n'en dis pas plus et fais place à Pauline. Rebonjour.
Bonjour Rémi, bonjour chers auditeurs.
Alors Pauline, qu'est-ce que tu en as pensé de ce Knight of Cups ?
J'ai le droit d'être honnête.
Oui, vas-y, je le savais aussi après.
Il y avait longtemps que je ne m'étais pas prise à déjà rêvasser pendant un film, hein, première chose. Deuxième chose, à vouloir allumer mon portable pour regarder l'heure. Et troisième chose, à me demander si je n'allais pas quitter la salle avant la fin du film. Je pense que ça résume ma position.
Alors, je ne serais peut-être pas aussi excessif dans ma réaction, mais c'est vrai que le film laisse un goût de profonde déception. J'y ai cru pendant 20 minutes, une demi-heure, puis ça s'essouffle terriblement et on se lasse. Et on finit par se demander ce que c'est que ce bel objet creux. C'est encore à déterminer parce que finalement il y a une forme de froideur dans la forme qui lasse également. Et puis il en reste très très peu de ce film.
J'ai vraiment pas aimé ce film. Cela dit, on peut lui reconnaître effectivement des qualités indéniables. D'abord, c'est typique de Terrence Malick. Enfin, c'est aussi un des soucis d'ailleurs, parce que finalement, c'est un film, c'est du Terrence Malick, quoi. Enfin, j'ai trouvé que c'était sa grammaire tout à fait habituelle, que finalement, il renouvelait très peu et le genre et son art. Et cela dit, ça passe quand même par, il est vrai, des plans, des séquences, des images notamment, tout à fait magiques, magnifiques. Un spectacle visuel me semble intéressant.
Oui, c'est-à-dire qu'on retrouve les images extrêmement bien travaillées, on retrouve une belle caméra qui fait le tour de la Terre en filmant l'atmosphère comme on aime bien chez Terrence Malick, on retrouve ces fameuses voix off, on retrouve la musique, et puis la caméra qui se prend le soleil, toutes ces longs plans séquences avec des pleine, des paysages toujours très très beaux, la mer, et c'est une écriture qui est vraiment poétique au sens littéraire du terme. Est un peu au cinéma ce que la poésie est dans la littérature, c'est-à-dire que
c'est une expérience esthétique, tout en étant une expérimentation.
Il y a manifestement peut-être un sens à aller chercher, une forme de sens peut-être un peu plus déconnecté de la forme aussi, qui est pas complètement immédiat, qui joue énormément sur les symboles. C'est profondément symboliste parce que chaque plan en soi n'a aucune espèce de sens. On prend le personnage, on le met au milieu de 3-4 ruines et puis on le fait penser en voix off. Ça a absolument aucun sens, mais c'est porteur d'un sens. C'est porteur d'une.
En fait, je suis pas tout à fait d'accord.
Moi, je pense que qu'on rajoute dessus.
Je suis pas d'accord. Je pense que les lieux font au contraire le gros et finalement le contenu peut-être du film. D'abord, le film, c'est donc Knight of Cups, donc finalement ça fait écho au jeu de tarot. Moi je pensais que c'était valet de cœur en fait,
mais
nous on dirait
cavalier,
cavalier, en fait ça dépend aussi des jeux de tarot. Toujours est-il que Le film est décomposé un petit peu comme une nouvelle ou un conte avec des chapitres intitulés qui font écho à des cartes du tarot, justement. Donc, on a la papesse.
Encore un côté très emphatique.
Oui, très emphatique et peut-être trop explicite pour le coup. Et pour autant, donc les lieux pour y revenir sont très variés. On a des scènes de plage, on a une garden party,
avec
une partie de campagne.
Avec un attrait pour le vide. C'est des lieux qui, quand ils sont soit ces grandes plaines avec la montagne ou la mer, les immenses plages.
Oui, c'est très lisse, très froid.
Ou alors ces villes, c'est les studios complètement impersonnels, alors, toujours complètement vides.
Oui. Je l'ai compris en fait plutôt comme ce que j'appellerais finalement une forme de topographie des lieux de résidence de ces dieux, entre guillemets, que sont les jet-setters et la starmania hollywoodienne. Quoi. Parce que finalement, on a affaire à un type qui évolue dans une sphère quand même tout à fait mondaine, qui est à l'acmé un peu de sa réussite et qui fréquente du beau monde. Et on est là pour voir qui sont ces gens, comme autant de créatures fantastiques, notamment les femmes qui peuplent son monde. Et nous, le public que nous sommes, avec nos petits moyens et nos petites vues, avons accès à cette topographie un peu du sacré.
On sent quand même qu'il y a ce propos de vouloir inlassablement nous montrer la vacuité de nos existences, ce personnage qui pense et qui est complètement perdu au milieu de ces différentes immensités. Mais finalement, personnellement, je trouve le propos particulièrement pauvre. On se contente de rappeler ça sans arrêt, d'essayer d'annoncer ce qui ne sont pas des solutions. Alors, Terrence Malick, du haut de ses études de philosophie, nous délivre son message, mais finalement, le message, je le trouve quand même excessivement creux.
J'ai pas vraiment compris le message d'ailleurs, à part le pitch que nous relatent les revues de cinéma ou les programmes des cinémas. Je veux dire, à regarder le film seulement, on pourrait à peine comprendre vraiment quelle est l'intrigue, en fait, parce qu'il n'y a pas d'intrigue.
De toute façon, ça...
Après, si, il recherche la perle. Donc la perle, en gros, métaphore de la femme qu'il cherche, qu'il ne trouve pas.
Il y a la place des femmes dans ce film aussi, qui est sujette à caution. Beaucoup y ont vu un certain sexisme. Après, est-ce que c'est pas le sexisme inhérent à ce milieu?
Sexisme inhérent à ce milieu, et puis aussi parce que c'est vu au prisme d'un personnage qui se trouve être un personnage masculin et particulièrement...
Qui se nourrit de conquêtes amoureuses
il est clair que le récit est très dépouillé et que ça libère finalement, on va dire, la place pour le travail plus de l'image, je pense. Il faut savoir quand même que le chef opérateur du film est Emmanuel Obetsky, qui a fait Gravity et Birdman.
Le chef opérateur de Malick depuis longtemps.
Notamment. Et on a affaire à des textures, des registres d'image tout à fait variés, hétéroclites, avec des mélanges de plans qui sont intéressants.
Le travail formel est brillant.
Ce que j'ai aimé aussi, c'est que contrairement à ce qu'on a pu voir chez Malick à plusieurs reprises, c'est qu'on n'est pas du tout dans une approche, ce que je dirais, publicitaire. C'est-à-dire qu'on a des successions de plans qui sont non seulement variés, mais inattendus. On ne sait vraiment jamais sur quoi va déboucher un plan.
Oui, c'est des aperçus.
C'est des aperçus.
Successifs.
Et il y a un jeu sur les points de vue, notamment, je pense, à la partie, la garden party, où on a vraiment l'impression que c'est un enfant qui court hébété dans le monde d'adulte, qu'il regarde de ses yeux un peu hagards. Et finalement, ça, c'est j'ai trouvé ça un peu frais, ou en tout cas rafraîchissant et assez sympathique.
Alors après, il y a aussi le fait que certaines scènes soient tournées à la GoPro, manifestement. C'est ce côté souvenir, voilà. Et ça me semble assez symptomatique, c'est-à-dire que les images sont formellement très très travaillées, elles sont finalement pleines de sens dans la mesure où on comprend le symbole qui se cache derrière, mais peut-être que ce qui manque, c'est le fait qu'il y ait du sens, mais pas vraiment d'âme dans ce film.
Il
n'est pas porteur.
Il n'est pas porteur. En fait, il est très anesthésié. Et d'ailleurs, j'ai trouvé qu'il se ralentissait. C'est-à-dire, au début,
cinq conquêtes successives dans la deuxième partie du film. Oui. Des femmes, on en voit. Les gens l'ont comparé à Fellini. C'est peut-être... mais l'émotion en moins.
C'est flatteur pour Malick.
Il n'en reste pas grand-chose, quoi.
Oui, voilà. Après, je trouve que les performances de Christian, Bale, quand même, là-dedans, vu ce qu'on lui donne comme rôle, il se débrouille plutôt pas mal.
Il joue de façon monolithique ce qu'on lui demande de faire et Harpent.
Et il est éclairé quand même par toutes ces femmes qui l'entourent. Voilà, on a quand même Scarlett Johansson, Natalie Portman, enfin d'autres. Donc,
Et puis le fait assez intéressant...
Ils sont les plus belles femmes de leur génération au niveau du cinéma quand même.
Que lui est toujours complètement apathique à côté de ces femmes.
Oui.
Et que l'amour et l'acte d'amour n'est jamais montré. C'est-à-dire que le montage coupe toujours quelques secondes avant qu'il se passe quelque chose. Et finalement, on filme vraiment un personnage pour lequel il ne se passe rien.
Oui, tout à fait. Mais en fait, finalement, la seule intrigue qu'il y aurait, c'est la question des parents. On aperçoit son père qui, si j'ai bien compris l'histoire, est plus ou moins en rupture avec la mère. Il y a un autre fils qui s'est suicidé. Et en fait, ce film, je dirais, au-delà des plans du travail sur l'image qui est très intéressant, eh bien, on a vraiment un côté un peu fantastique, un côté nouvelle fantastique, forme aussi parabole biblique, il m'a semblé voir un peu quand même des formes de références.
Oui, évidemment, les références bibliques, ne serait-ce que dans la musique, les musiques religieuses d'Arvo Pärt, qu'on commence à connaître à force de voir leur utilisation dans le cinéma ces dernières années.
Quelques passages un peu psychédéliques sous la forme d'expérimentations hallucinées assez intéressantes. Donc, en fait, ils multiplient...
Les plans sous l'eau.
Oui, les plans sous l'eau dans les piscines, qui sont un peu d'ailleurs des formes de leitmotiv, quoi. Mais au final, voilà, et puis alors, moi, un truc qui m'a vraiment énervée, et je finirai là-dessus, c'est quand même la seule mention de des choses un petit peu obscures et tristes de notre société, qui sont le lépreux noir et la SDF en pleine rue, avec un gobelet américain en premier plan. Enfin, je veux dire, si c'est juste pour critiquer les vices de nos sociétés mondaines, oui. Jesseteuse qui laisse sur le carreau la moitié de la population.
Portrait des problèmes de l'Amérique, je pense que la question tout petit peu plus creusée si c'était vraiment le cas.
Oui, la question n'est pas là, mais c'est juste insuffisant, il fallait rien faire dans ce cas.
Voilà donc pour Night of Cups, qui est encore en salle pour un moment s'il vous fait toujours envie. Mais l'heure presse et il est temps de passer à l'actualité cinématographique. Et pour ce numéro, petit retour sur la programmation à l'Institut Lumière que nous avons la chance d'avoir à quelques stations de métro de l'école. L'Institut en ce moment, c'est surtout la rétrospective sur Billy Wilder, cinéaste américain majeur, maître incontesté de la comédie des années 50. Caricaturiste mordant et subversif, ses comédies dressent avec un humour savoureux un portrait parfois polémique de la société de son temps. Quelques films présentés par l'Institut, donc, jusqu'au 3 janvier, présentés plusieurs séances d'ici là. Commençons par Certains Lame Show avec Marilyn Monroe, grand classique, où deux hommes en cavale se travestissent dans un orchestre féminin, un monument du cinéma hilarant et révérencieux qu'il faut avoir vu une fois dans sa vie. Quand il s'agit de Wilder et de Marilyn, on ne peut pas passer à côté de cette tendre réflexion, où un homme resté seul dans son appartement, sa femme et ses enfants étant partis en vacances, se laisse séduire par sa jeune voisine, qui contient peut-être ce qui est l'image la plus célèbre du cinéma hollywoodien, Marilyn Monroe et cette fameuse aération de métro. Mais Wilder ne s'est pas contenté de comédie. Dans Témoins à charge avec Charles Lofton et Marlène Dietrich, Wilder tente de réaliser un film d'Hitchcock, dit-il lui-même, et filme un homme accusé du meurtre de son amante dont il est l'héritier. Du suspense, des rebondissements, des acteurs monumentaux, tout est là pour un grand film noir. On finit avec Sunset Boulevard, qui mélange humour grinçant et film noir. Un scénariste hollywoodien échoue par hasard devant la porte d'une vieille gloire du cinéma muet, qui voit en lui une occasion de concrétiser son fantasme de revenir à l'écran. L'homme devient très vite complètement dépendant d'elle financièrement, et la situation devient de plus en plus malsaine entre traîtrise, menace, aveu et lâcheté. Il ne vous reste donc plus qu'à passer les vacances de Noël devant la toile de l'Institut Lumière. D'étoiles plein les yeux, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Pauline, merci à Mathias pour la technique et à bientôt sur Transistor.
Merci à vous Rémi et Pauline pour cette discussion autour de Night of Cups et pour ce point sur l'Institut Lumière.